Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un deuxième extrait du roman de Margaret Atwood, La servante écarlate. La musique choisie est de Bill Frisell dans l'album Ghost Town, Variation sur un thème. Pourquoi m'envie-t-elle ? Elle ne m'adresse pas la parole, sauf si elle ne peut l'éviter. Je suis pour elle un reproche et une nécessité. Nous étions face à face pour la première fois il y a 5 semaines, lorsque j'ai rejoint ma présente affectation. Le gardien de mon poste précédent m'a amené jusqu'à la porte principale. Le premier jour, nous sommes autorisés à passer par la porte principale, mais ensuite, nous devons utiliser celle de derrière. Les choses ne sont pas encore fixées. C'est trop tôt. Personne n'est au clair quant à notre statut exact. Par la suite, ce sera soit toujours la porte principale, soit toujours la porte de service. Tante Lydia disait qu'elle faisait campagne pour la porte principale. C'est une situation honorifique que la vôtre, disait-elle. Le gardien a tiré la sonnette pour moi, mais avant que ne s'écoule le temps nécessaire pour que quelqu'un l'entende et vienne rapidement répondre, la porte s'est ouverte de l'intérieur. Elle devait être à guetter derrière. Je m'attendais à voir une Martha, mais c'était elle, dans sa longue robe bleu pâle, sans méprise possible. « Alors vous êtes la nouvelle ? » a-t-elle dit. Elle ne s'est pas écartée pour me laisser entrer. Elle est restée plantée là, dans l'encadrement de la porte, à me bloquer le passage. Elle voulait me faire sentir que je ne pouvais pas pénétrer dans la maison sans qu'elle ne m'y invite. On se bouscule de nos jours pour garder pareille prise de pied. J'ai répondu « oui ». Laissez cela sur la terrasse, ceci au gardien qui portait ma valise. La valise était en vinyle rouge et guère volumineuse. Il y avait un autre sac contenant la cape d'hiver et des robes plus chaudes, mais il devait arriver plus tard. Le gardien a déposé la valise et l'a saluée, puis j'ai entendu ses pas derrière moi s'éloigner sur le chemin et le déclic de la grille principale, et j'ai eu l'impression qu'un bras protecteur se retirait. Le seuil d'une nouvelle maison est un lieu solitaire. Elle a attendu que la voiture démarre et parte. Je ne regardais pas son visage, mais la portion de sa personne que je pouvais voir en gardant la tête baissée. La taille bleue, épaissie, sa main gauche sur le pommeau d'ivoire de sa canne, les gros diamants à l'annulaire qui avaient dû un jour être jolis et étaient encore joliment soignés, l'ongle au bout du doigt noueux et élégamment limé avec une pointe arrondie. C'était comme un sourire ironique à ce doigt, comme quelque chose qui se moquait d'elle. Elle a dit « Vous feriez aussi bien d'entrer. » Elle m'a tourné le dos et a claudiqué le long du vestibule. « Fermez la porte derrière vous. » J'ai traîné la valise rouge à l'intérieur, comme elle le souhaitait sans doute, puis j'ai fermé la porte. Tante Lydia disait qu'il valait mieux ne pas parler, à moins qu'elle ne nous pose des questions directes. « Essayez de voir les choses de leur point de vue, » disait-elle, les mains jointes et étroitement serrées, avec son sourire nerveux, implorant. Ce n'est pas facile pour elle. « Venez par ici, » a dit l'épouse du commandant. Quand je suis entrée dans le salon, elle était déjà dans son fauteuil, le pied gauche sur le tabouret avec son coussin, au petit point, des roses dans un panier. Son tricot était par terre, à côté du fauteuil, les aiguilles fichées dedans. Thank you. suis restée debout devant elle, mains jointes. Elle a dit « Alors ?» Elle tenait une cigarette, l'a placée entre ses lèvres, et l'y a tenue serrée tandis qu'elle l'allumait. Elle avait les lèvres minces, ainsi avec autour les petites rides verticales que l'on voyait jadis sur les publicités vantant des cosmétiques pour les lèvres. Le briquet était couleur d'ivoire. Les cigarettes provenaient probablement du marché noir, ai-je pensé, et cela m'a donné de l'espoir. Même aujourd'hui, qu'il n'y a plus de vrai argent, il y a encore un marché noir. Il y a toujours un marché noir. Il y a toujours quelque chose qui peut s'échanger. C'était donc une femme capable de forcer les règles. Mais que possédais-je, moi, à échanger? Je regardais la cigarette avec envie. Pour moi, de même que l'alcool et le café, les cigarettes sont interdites. Elle a dit « Alors, le vieux machin rose n'a pas fait l'affaire ?»« Non, madame. » Elle a émis ce qui pouvait passer pour un rire, puis a toussé. « Pas de chance pour lui. C'est votre deuxième, n'est-ce pas ?»« Troisième, madame. » »« Pas très bon pour vous non plus, » a-t-elle observé. Il y a eu un autre rire tout sauté. « Vous pouvez vous asseoir. Je n'en fais pas une habitude, mais juste pour une fois. » Je me suis assise au bord de l'une des chaises, à dossier raide. Je ne voulais pas explorer la pièce des yeux, je ne voulais pas paraître inattentive à son regard. Si bien que le manteau de cheminée en marbre, le miroir qui le surmontait et les bouquets de fleurs n'étaient que des silhouettes aux marges de mon regard. Plus tard, je n'aurai que trop de temps pour les assimiler. Maintenant, son visage était au même niveau que le mien. Il me semblait le reconnaître. Ou du moins, il y avait chez elle quelque chose de familier. Quelques cheveux dépassaient de son voile. Ils étaient encore blonds. Je me suis dit alors qu'elle les décolorait peut-être, qu'elle pouvait aussi se procurer de la teinture au marché noir, mais je sais maintenant qu'ils sont réellement blonds. Elle avait les sourcils épilés, jusqu'à ne laisser que de minces traits arqués, ce qui lui donnait en permanence l'air surpris ou indigné ou inquisiteur, comme celui qu'aurait un enfant effarouché. Mais en dessous, ses paupières paraissaient fatiguées. En revanche, pas ses yeux, qui étaient du bleu uniforme et hostile d'un ciel de plein été sous un soleil brillant, un bleu qui vous exclut. Son nez avait dû être un jour ce que l'on qualifiait alors de mignon, mais il était maintenant trop petit pour son visage. Son visage n'était pas gros, mais grand. Deux rides descendaient les coins de sa bouche, entre elles, le menton crispé comme un poing. Elle a dit « Je souhaite vous voir aussi peu que possible. Je suppose que vous êtes dans les mêmes dispositions à mon égard. » Je n'ai pas répondu car un oui aurait été une insolence, un non une contradiction. Elle a poursuivi « Je sais que vous n'êtes pas idiote. » Elle a inhalé, soufflé la fumée. « En ce qui me concerne, ceci n'est qu'une simple transaction commerciale. Mais quand on me crée des ennuis, j'en crée en retour. C'est bien compris ?»« Oui, madame. Ne m'appelez pas madame, » a-t-elle dit avec agacement. « Vous n'êtes pas une Martha. » Je ne lui ai pas demandé comment j'étais censée l'appeler, parce que je voyais qu'elle espérait que je n'aurais jamais l'occasion de l'appeler de quelque nom que ce fût. J'étais déçue. J'avais envie alors d'en faire une aînée, un personnage maternel, quelqu'un qui me comprenne et me protège. L'épouse de mon affectation précédente passait le plus clair de son temps dans sa chambre à coucher. Les Martha disaient qu'elle buvait. Je souhaitais que celle-ci soit différente. Je voulais croire que je l'aurais aimée en un autre temps, un autre lieu, une autre vie. Mais je voyais déjà que je ne l'aurais pas aimée, et réciproquement. Elle a éteint sa cigarette à demi consumée dans un petit cendrier orné d'arabesques, placé sur le guéridon, à côté d'elle. Elle le fit d'un geste décidé, d'un coup sec, puis l'écrasa, et non pas d'une série de tapotements délicats comme préféraient le faire beaucoup d'épouses. « Quant à mon mari, a-t-elle ajouté, c'est mon mari, un point c'est tout, mon mari. Je veux que cela soit parfaitement clair, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il n'y a rien à ajouter. » « Oui, madame, ai-je fait encore étourdiment. » Il y avait dans le temps des poupées pour les petites filles qui parlaient si l'on tirait un cordon fixé à leur dos. Je me disais que ma voix avait le même son, monocorde, voix de poupée. Elle avait probablement envie de me gifler. Elles peuvent nous frapper. Il y a des précédents dans les Écritures, mais pas avec un objet, uniquement avec la main. Cela fait partie des choses pour lesquelles nous nous sommes battus, dit l'épouse du commandant, et tout à coup, elle ne me regardait plus, elle baissait les yeux sur ses mains noueuses cloutées de diamants, et je sus où je l'avais vue auparavant. La première fois, c'était à la télévision, quand j'avais 8 ou 9 ans. C'était quand ma mère faisait la grasse matinée le dimanche. Je me levais tôt pour aller regarder la télévision dans son bureau et je passais d'une chaîne à l'autre à la recherche de dessins animés. Parfois, quand je n'en trouvais pas, je regardais l'émission « L'Évangile pour la formation des jeunes âmes » où l'on racontait des histoires bibliques adaptées aux enfants et où l'on chantait des hymnes. L'une des femmes s'appelait Serena Joy. C'était la première soprano. Elle était blond cendré, menue, avec un nez retroussé et d'immenses yeux bleus qu'elle levait au ciel pendant les hymnes. Elle pouvait sourire et pleurer en même temps, laissant une ou deux larmes lui glisser gracieusement le long des joues, comme pour annoncer son entrée, tandis que sa voix montait avec aisance, frémissante jusqu'aux notes les plus aiguës. C'est plus tard qu'elle s'était adonnée à d'autres activités. La femme assise en face de moi était Serena Joy, ou l'avait été jadis. C'était donc pire que je ne le pensais. Je parcours le chemin de gravier qui divise la pelouse de derrière, proprement, comme une raie dans les cheveux. Il a plu pendant la nuit. L'herbe de part et d'autre est humide, l'air moite. Ça et là, il y a des vers de terre, preuve de la fertilité du sol, surpris par le soleil à demi-mort, souples et roses, comme des lèvres. J'ouvre le portail en palissade blanche et je continue, traverse la pelouse de devant et approche de la grille principale. Dans l'allée du garage, l'un des gardiens affectés à notre maisonnée lave la voiture. Cela doit signifier que le commandant est à la maison, dans ses appartements, au-delà de la salle à manger et au fond, là où il semble se tenir la plupart du temps. C'est une voiture très luxueuse, une tourbillon, plus belle que la chariot, beaucoup plus belle que la belle motte, trapue et utilitaire. Elle est noire, bien sûr, couleur de prestige ou de corbillard, longue et luisante. Le gardien la passe à la peau de chamois, amoureusement. Cela au moins n'a pas changé, la manière dont les hommes caressent les belles voitures. Il porte l'uniforme des gardiens, mais sa casquette est basculée de façon coquine. Et il a les manches roulées jusqu'au coude, découvrant ses avant-bras bronzés mais ponctués de poils noirs. Une cigarette est collée au coin de sa bouche, ce qui montre que lui aussi possède quelque chose qu'il peut échanger au marché noir. Je sais le nom de cet homme, Nick. Je le sais parce que j'ai entendu Rita et Cora parler de lui, et une fois j'ai entendu le commandant s'adresser à lui. « Nick, je n'aurai pas besoin de la voiture. » Il vit ici, dans la maison, au-dessus du garage. Statut inférieur. On ne lui a pas attribué de femme, pas même une. Il ne compte pas. Quelques défauts, manque de relations. Mais il se comporte comme s'il ne savait pas, ni ne s'en souciait. Il est trop désinvolte, il n'est pas assez servile. C'est peut-être par bêtise, mais je ne le crois pas. Ça sent la magouille, disait-on, ou ça sent le roussi. L'inadaptation assimilée à une odeur. Malgré moi, je me demande ce qu'il peut bien sentir. Ni la magouille, ni le roussi. Peau tannée, moite au soleil, enduite de fumée. Je respire profondément, captant son odeur. Il me regarde et me voit le regarder. Il a un visage de français, mince, changeant, tout en plan et en angle, avec des plis autour de la bouche quand il sourit. Il tire une dernière bouffée de sa cigarette, la laisse choir dans l'allée et l'écrase du pied. Il se met à siffler, puis il cligne de l'œil. Je baisse la tête et me détourne pour que les ailes blanches me cachent le visage et je poursuis mon chemin. Il vient de prendre un risque, mais pourquoi? Et si je le dénonçais? Peut-être voulait-il simplement se montrer amical? Peut-être a-t-il vu l'expression de mon visage et la méprise pour quelque chose d'autre? En vérité, ce que je désirais, c'était la cigarette. Peut-être était-ce un test pour voir ce que je ferais? Peut-être est-il un œil? Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second. Te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. Te souviens-tu? Offrez-moi une cigarette. J'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête. J'ai tout mon temps jusqu'à demain. Que disiez-vous? Vous pouvez me retrouver chaque vendredi à 8h30 ou en rediffusion le mardi à 16h30 ainsi qu'en podcast.
Les mots sont sans importance.
Les mots.